Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
J'ouvre la Bible au chapitre des rois, le premier chapitre des rois, au verset 17 et à partir du verset 8. Ça nous parle du prophète Élie. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Parce que ça se passe dans un temps de famine. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras un ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi a parlé le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, de mon péché, et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Bois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Est-ce que vous connaissiez ce récit? Une histoire de la Bible qui est pour nous ce matin, pour moi et pour vous, une vieille histoire, une très vieille histoire, vieille de 2800 ans environ. Et ça s'est passé dans un pays lointain, au milieu de gens dont les mœurs nous sont étrangères. On peut donc s'étonner que cette histoire soit pour nous. Et pourtant, l'homme n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et l'homme a toujours besoin de Dieu pour vivre. Donc cette histoire nous interpelle. Oui, je le crois, elle nous concerne, nous, aujourd'hui. Le décor de l'histoire, c'est la famine, la sécheresse. Les ressources alimentaires sont épuisées. Les gens que l'on peut croiser dans ce pays sont maigres, affamés. Les enfants et toutes les personnes faibles sont déjà mortes ou meurent les unes après les autres, et chacun doit se débrouiller pour survivre. Chacun pour soi. À ce stade, il n'y a pas d'autre loi. Il y a deux personnages principaux dans cette histoire, un homme et une femme. Lui, c'est le prophète Élie. C'est un exilé. Il fuit son pays. On le considère comme responsable de cette sécheresse qui sème la mort partout. Il n'en est pas le responsable, mais il a prédit la catastrophe, car Dieu l'en avait averti. Et le voilà qui avance maintenant sur cette route poussiéreuse. Il est très fatigué. Il vient de faire 150 kilomètres. Il a faim. Il a soif. Il y a deux hommes en lui. Celui qui croit, le prophète, celui qui se souvient de la parole de Dieu, une femme va s'occuper de toi. Et puis, il y a aussi celui qui doute, qui désespère et qui se demande comment il va s'en tirer. Il voit les premières maisons de cette ville, Sarepta, qu'il ne connaît pas. Comment va-t-il être accueilli? Et puis il voit une femme qui ramasse du bois. Serait-ce la femme? Le deuxième personnage, c'est cette femme. Est-elle jeune? Est-elle âgée? Nous ne savons pas. En tout cas, elle est veuve. Son mari est peut-être mort en raison de la famine. Elle n'a pas été remariée. Elle est donc rejetée de sa société. Elle vit comme une paria, seule, avec son fils. Et sa situation est désespérée. Elle n'a pratiquement plus rien pour subsister. Elle voit cet homme qui arrive vers elle. Il a l'air épuisé, lui aussi. C'est un Israélite. Elle le devine. Un Israélite en fuite. Mais il y a plus. Il a l'air d'un sage. Serait-ce un homme de Dieu? Il lui demande de l'eau. Ça, elle veut bien lui en donner. Elle en possède encore. Mais quand il ose lui demander en plus un morceau de pain, alors là, la femme hésite. Bien sûr, en temps normal, l'hospitalité voudrait, mais on n'est pas en temps normal. Et cet homme devrait le savoir. Et je n'ai pratiquement plus rien à manger. Donc, tout pousse cette femme à renvoyer le prophète les mains vides. Et pourtant, nous l'avons vu, ce n'est pas ce qu'elle va faire. Quelque chose en elle la pousse à partager le peu qu'elle possède. Une force en elle venue de Dieu. Une générosité plus forte que l'égoïsme. Et ce volte-face en elle, ce geste inattendu, elle ne sait pas encore, mais finalement, c'est ce qui va lui sauver la vie. Ce geste, c'est le début d'une grande aventure. C'est ce geste que le Seigneur attendait d'elle. Et voyez-vous, c'est aussi ce qu'il attend de nous. Des gestes de partage, des gestes désintéressés, mais qui changent tout. Un geste comme celui de la pauvre veuve du Nouveau Testament qui donne deux petites pièces, mais c'est tout ce qu'elle possède pour la collecte du temple. Un geste comme celui de ce jeune garçon qui donne 5 pains et 2 poissons, mais c'est tout ce qu'il possède pour nourrir 5 000 hommes. Avec des petits gestes comme ça, Dieu peut faire beaucoup. Le pain du partage est le meilleur des pains. Il me reste un peu d'huile et un peu de farine. Je vais te faire un gâteau, nous le mangerons et ensuite nous mourrons. Et c'est au prophète maintenant de réagir. Il pourrait se dire, bon, je suis mal tombé. Cette femme n'a plus rien. Je me suis trompé. Ce n'est pas la femme qui pourra subvenir à mes besoins. Et ça, c'est ce que pourrait penser l'homme en lui, l'homme raisonneur et raisonnable. Mais Élie n'est pas un simple homme. Il est un grand prophète. L'Esprit de Dieu parle en lui, domine en lui. Et Élie, en fait, comprend tout de suite que le geste de cette femme ouvre l'avenir. Son esprit de prophétie et de connaissance lui permet d'annoncer l'incroyable. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas tant que durera la sécheresse. La femme qui entend cette parole n'en croit pas ses oreilles. Elle doutera peut-être le premier jour, mais pas le deuxième, ni le troisième. Et de jour en jour, la foi de cette personne va grandir en elle. Naturellement, Élie va lui parler de Dieu. Il va lui faire connaître Dieu. Il lui racontera comment le Seigneur a nourri son peuple dans le désert avec la manne, une substance qui ne durait qu'un jour, mais qui se renouvelait de jour en jour. Et chaque matin, cette femme découvrira avec émerveillement qu'il reste encore de la farine au fond du pot et de l'huile au fond de la jarre. Chaque matin, elle pourra prier avec le psaume 90 « Éternel, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Elle pourra dire aussi avec le prophète Jérémie, « Non, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et donc, cette femme, pendant un temps assez long, va héberger chez elle l'homme de Dieu et vivre ainsi une bénédiction permanente. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous aussi, chers amis, nous hébergeons l'homme de Dieu dans nos maisons. Chaque matin, il est là. Il nous bénit. Il nous protège. Il nous inspire. Nous suggère ses pensées. Nous dit ce qu'il attend de nous. Dans les jours de bonheur, comme dans les jours de malheur, il est là. Il nous assiste. Sa présence nous maintient en vie, dans la vraie vie, celle de la générosité et du partage. Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini. Ainsi, la veuve de Sarepta attend-elle à dépendre de Dieu chaque jour, à vivre en sa présence et à le louer pour ses bontés. Mais Dieu lui réserve encore une plus grande instruction. Elle a encore autre chose à apprendre. Un jour, comme nous l'avons vu, son fils tombe malade et meurt. Alors, c'est à nouveau le désespoir. Et cette femme n'y comprend plus rien. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est comme nous quand nous frappe le malheur ou le deuil. Elle crie son désespoir. Est-ce parce qu'elle a péché autrefois? Est-ce parce que ce péché est incompatible avec la présence du prophète dans sa maison? Dans ce cas-là, il aurait mieux fait de ne pas venir chez elle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pendant qu'elle pleure et qu'elle crie ainsi, Élie prend l'enfant et le monte dans la chambre haute où il demeurait. Et là, il va faire monter vers Dieu une magnifique prière. Une prière en forme de question. Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais même au point de faire mourir son fils, cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Cette prière me touche énormément. J'y entends le cri de la souffrance humaine face à l'incompréhension de la mort, face à l'injustice de la mort. J'y entends aussi la complicité entre Élie et son Dieu. Ce n'est pas seulement le désespoir de cette veuve qui est en jeu, mais aussi la confiance qu'Élie doit garder en la bonté du Seigneur. Comme Abraham l'a fait, comme Moïse aussi, le prophète, avec beaucoup de respect, ose quand même mettre en jeu l'honneur et la crédibilité de Dieu. Affligerais-tu à ce point cette veuve? Serais-tu comme cela? L'Éternel écoute la voix d'Élie. Écouta la voix d'Élie. Quelle phrase magnifique! Quel encouragement pour nous quand nous prions. Ce n'est pas que je veuille nous comparer au prophète Élie. Mais Dieu, n'est-ce pas, écoute aussi nos voix quand nous prions. Je le crois. Et on a là la première résurrection racontée dans la Bible, celle du fils de la veuve de Sarepta. Voyez-vous, en préparant ce texte, j'avais pensé vous parler seulement de l'histoire du pot de farine inépuisable avec la jarre d'huile inépuisable. Je m'étais dit que cette magnifique histoire suffisait pour apporter un message. Et puis je me suis rendu compte que ce deuxième récit, celui de la résurrection du Fils, ne doit pas être coupé du début. Il en est le prolongement, une étape supplémentaire dans la conversion à Dieu de cette veuve. Dans un premier temps, cette païenne apprend que le Dieu d'Israël existe, qu'il est puissant, que ses bontés sont inépuisables, qu'elle peut dépendre de lui et compter sur son secours jour après jour pour ses besoins matériels. Mais dans un deuxième temps, elle apprend que Dieu répond aussi à ses besoins spirituels, car l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu répond à ses aspirations les plus profondes, les plus existentielles. Dieu est plus puissant même que la mort. Avec ce Dieu, l'espérance de la résurrection est possible. Son fils est ressuscité. Elle revit, elle aussi. Et maintenant, elle croit. Elle peut croire de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée en ce Dieu si bon et si merveilleux. Mes amis, cette femme a vécu une expérience inoubliable avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et cependant, cette veuve n'a pas vécu le plus formidable, car elle est une femme de l'Ancien Testament. Elle ne sait pas encore qu'un jour, Dieu enverra dans le monde un envoyé bien plus grand encore que le prophète Élie. Oui, cette veuve a de la chance d'avoir vécu ce qu'elle a vécu avec Élie, mais elle ne sait pas que la bonté de Dieu est telle qu'il enverra un jour son propre fils comme holocauste pour le pardon des péchés du monde, et aussi pour le pardon de son péché à elle. Par contre, nous le savons, et nous avons une chance encore plus grande qu'elle, car nous le savons que Jésus est venu donner sa vie pour nous. Mais plus encore que cette veuve de Sarepta, qui a vécu la résurrection de son Fils, nous qui croyons, savons que la vraie résurrection, celle qui conduit à la vie éternelle, nous est offerte par le Fils de Dieu. En effet, le Fils sorti du tombeau est le premier d'entre les morts, comme le dit l'Écriture, à entrer dans cette vie nouvelle. Il nous trace le chemin. Il inaugure l'entrée des hommes et des femmes croyants dans cette éternité, dans une vie où il n'y aura plus de souffrance, plus de sécheresse, plus de famine, plus de guerre, plus de deuil. Alors on vivra avec Dieu lui-même, chez lui. Nous serons ses hôtes pour toujours, à l'abri de tout besoin. Amen.